CO2 Mon Amour avec le WWF. Défendez les espèces en voie de disparition, ici et partout dans le monde. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur WWF.fr.
Hey, Flaps, qu'est-ce qu'on va faire?
N'en sais rien, que veux-tu faire?
J'ai une idée. Allons du côté du soleil levant, c'est un coin où il y a toujours de la bagarre et de quoi manger, ça vous va?
Gauche toujours, Ziggy. De quel côté qu'on aille, tout est mort.
Tu voudrais bien que tout soit mort.
CO2, mon amour.
Oh, que c'est drôle.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire?
Oh, écoute, Flaps, moi je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors faisons quelque chose.
Denis Chessou.
Ok, qu'est-ce que tu veux faire?
Eh ben oui, on va faire. C'est un petit extrait donc du livre de la jungle. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour. L'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui à la technique Julien Michel et Vincent Godard. Je n'oublie pas Jean-François Souvilly, notre régisseur, Albert Houck, qui sera aussi pas très loin en fait, Camille Blanès, notre assistante, et Lise Combe qui réalise cette émission. Et ça commence, vous le savez, par une petite humeur, car c'est le grand mois du blanc. Approchez réchauffement en Arctique. Alors l'Arctique, je vous le rappelle, c'est au nord de l'île, hein, c'est un peu plus haut que l'île. Température incroyable au mois de novembre. Les températures sont restées entre 0 degré et moins 12, feignasse, au lieu des 25 à moins 30 habituels que vous, Inuits et phoques moyens qui écoutez chaque samedi CO2 de mon amour sur une grande partie de l'Arctique, eh bien, pouviez constater auparavant. Et ça vous dépite. Bah ouais, c'est comme ça. C'est une des conséquences, en fait, du recul de la banquise. Quand l'eau a une température négative à moins 2 degrés environ, bien, la banquise se forme et joue un rôle d'isolant. Et cette couverture empêche l'eau de réchauffer l'air qui est normalement autour, donc, de moins 20 degrés, on va dire, au mois de novembre. Or, cette année, la banquise étant très réduite, la chaleur de l'océan Arctique a donc pu être transmise. L'air s'est réchauffé d'une vingtaine de degrés, on peut pas compter sur lui, il a fait n'importe quoi. Et alors les Inuits, les phoques, les ours blancs ne nous disent pas merci. Chérie, la couette polaire a rétréci. Eh ben oui, nous y voilà. À force de danser la Zumba tout l'été sur le dance floor mondial d'après nous le déluge, la fièvre du lundi matin et les courbes de température crèvent le plafond. C'est quasiment nous qui réchauffons la chambre, fermer les radiateurs, le matelas bouillonne, la couette blanche de la banquise, à peine un drap de lit blanc tout riquiqui sur le ventre qu'on envoie balader d'un revers de nageoire. On ne la supporte plus la couette. Out, mais oui! La banquise émitée, la banquise n'a plus d'âge, au feu, madame la banquise. Ah, ce n'est plus la banquise, mais c'est la banqueroute. Aujourd'hui, le Titanic ne serait même pas certain de faire naufrage avec ou sans DiCaprio. Les icebergs sont désormais l'apparence de bons gros glaçons paisibles flottant dans un whisky. Les esquimaux déglacés n'ont plus que leurs bâtons pour tenir debout. Les phoques enlèvent leurs capuchons, les baleines suivent des régimes draconiens pour entrer dans leur maillot de bain. Et les ours blancs, sur leurs confettis glacés, s'interrogent sur la condition du climatique réfugié. Pour aller où? Bah ouais, tout ce qui est réfugié aujourd'hui, climatique ou non, c'est indésirable. Tenez, peut-être... Ah si, c'est peut-être... On peut peut-être se retrouver dans une boule, vous savez, que l'on retourne pour faire de la fausse neige. Ce sera très joli, et ça nous rappellera le bon vieux temps de la biodiversité. Glaçon de la banquise, qui n'a pas son glaçon de la banquise, profitez-en. Bientôt, ce sera arrangé au rayon des antiquités pittoresques. Chérie, tu as rétréci la couette polaire avec ton 4x4 à la... Vous voyez, et ton moteur à charbon. C'était par un froid qui pique, le grand mois du blanc et des soldes réunis quelque part en Arctique. Les Inuits, les phoques, les ours blancs ne nous disent pas merci car pour eux, le réchauffement, c'est maintenant. C'est le grand mois du blanc, tout doit disparaître, encore un effort, mais c'est bien parti. Car tout ce petit monde est quasiment à l'Arctique de la mort. Mais il y aura des bonnes nouvelles. Mais oui, il y aura des choses très agréables dans cette émission. Tenez, on aura du beau avec des vautours dans le ciel des Hautes-Alpes. Ce sera avec Christian Couloumi. Il y aura quand même aussi une opposition à une ligne à haute tension dans la Durance avec l'alpiniste Lionel Daudet. Une parole de jeune, on en a besoin. Fanny, qui a un peu plus de 25 ans dans le Tarn, qui est ingénieur des sols dans la SCOP Sagne. Les Sagnes, ce sont les zones humides. Donc on va avoir son métier avec elle. Ça donne des envies après aux autres. Et puis on terminera avec quand la nature inspire les écrivains avec Marie Schell Shelley, une femme du 19e, qui avait écrit Frankenstein. Ouais. Et donc, pour elle, la nature, c'était lutter contre les tourments de l'existence. Mais on va commencer par une actualité. Parce qu'en fait, ils sont partout. Ils sont partout dans les cosmétiques, vos bols en plastique, les emballages, l'électronique, les pesticides, j'en passe et des meilleurs. Qui ça? La grande famille des perturbateurs endocriniens. Alors, en gros, si vous voulez, ça nous secoue le système hormonal, même à dose infime. Je vous résume l'affaire. Pour prévenir les expositions aux produits chimiques, alors une solution, évidemment, faire attention les uns les autres, aux emballages, etc. Mais aussi une réglementation plus efficace, qui est très combattue dans l'Union européenne par des scientifiques qui sont fortement liés à des intérêts industriels. Donc, fabriquons, semons du doute, ce qui produit une absence de consensus, comme on l'a déjà fait à l'époque sur le tabac, l'amiante, les pesticides, le réchauffement climatique, ça c'est vieux comme le monde. Et près de 100 scientifiques dénoncent cette fabrication du doute et du mensonge, c'était cette semaine dans Le Monde, par les industriels, car la Commission européenne a élaboré ses propres éléments de preuve pour éviter, on va dire, une réglementation trop sévère de ces substances dangereuses. Alors on va se tourner vers vous, vers notre docteur nutritionniste qui a écrit entre autres le livre Antitoxique. Bonjour Laurent Chevalier, donc sujet complexe, on vous écoute.
Bonjour Denis. Alors, il faut bien voir que les perturbateurs endocriniens existent effectivement dans un grand nombre de produits. Les perturbateurs endocriniens modifient le métabolisme, peuvent intervenir et interférer avec tout un tas d'hormones, et cela va assez loin puisqu'ils peuvent interférer avec les hormones thyroïdiennes, et chez les jeunes enfants, eh bien, ils peuvent perturber le développement cérébral, si vous voulez, en interagissant avec les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont absolument fondamentales pour un développement cérébral optimum. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que dans les pays occidentaux, on a une diminution du quotient intellectuel, et cette diminution du quotient intellectuel pourrait être pour en grande partie liée à l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. Donc, au-delà de l'obésité, au-delà du surpoids, on a une vraie problématique avec ces substances. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe actuellement? Eh bien, l'Europe ne réglemente pas. Donc, les scientifiques demandent que l'Europe réglemente et ce qu'elle ne fait pas. Alors, pourquoi elle ne le fait pas? Alors, il y a deux raisons qu'il faut bien analyser. La première, c'est qu'il y a une puissance extrêmement forte des lobbies industriels qui ne souhaitent pas qu'on réglemente, qui ne souhaitent pas être encadrés, ou en tout cas à minima.
Et qui vont réfugier, pardonnez-moi, donc derrière une phrase qui est extrêmement importante, donc qui avait été sortie par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, autrement dit l'EFSA, c'était sur un avis de 2013, et qui dit que les perturbateurs endocriniens peuvent être traités comme la plupart des substances chimiques préoccupantes pour la santé humaine et l'environnement. Donc, pas plus, pas moins, vous voyez, c'est ça qu'on entend.
Alors ça, c'est une erreur fondamentale, puisque les mécanismes d'action n'ont rien à voir avec la toxicologie classique. Avant, on considérait que c'était la dose qui pouvait faire le poison, alors que c'est le moment de l'exposition, et avec des très faibles doses, on peut être plus délétère qu'avec de fortes doses, en fonction du moment où on est exposé sur le plan humain. Donc ça, c'est une très mauvaise analyse de l'EFSA, et c'est tout à fait condamnable, bien entendu. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que, bien entendu, c'est lobby, mais d'autre part, malgré tout, c'est un peu compliqué de définir pour toutes les molécules s'il est un perturbateur endocrinien ou pas. Par exemple, pour certains pesticides, dont un, je vous donne un exemple, le chlorpyrifos, on sait que cette substance-là interagit avec les hormones thyroïdiennes et peut provoquer, là aussi, des troubles du développement et des troubles thyroïdiens qui sont tout à fait dommageables. Mais à l'inverse, on peut avoir des substances qui peuvent modifier le métabolisme sans avoir d'impact négatif. Par exemple, on peut donner l'exemple du gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat va entraîner une augmentation de l'insuline, donc va modifier le métabolisme, mais ce n'est pas un perturbateur endocrinien. Donc, ces deux aspects sont tout à fait fondamentaux. Ce qui est tout à fait regrettable, c'est que on demande plus de science, on demande plus de moyens. Or, aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est la protection des populations. Et on a l'impression que l'Europe est très frileuse par rapport à ça, et c'est ce que dénoncent les scientifiques en demandant d'avoir une réglementation la plus adaptée possible.
Oui, parce qu'il y a quand même eu plus de 1300 publications qui sont parues depuis la dernière contribution en 2009, et la conclusion laissait manifestement aucun doute sur la contribution donc de ces fameux perturbateurs au fardeau croissant des maladies chroniques que l'on a citées.
Absolument. On a des milliers de chercheurs qui travaillent à travers le monde pour ces substances. En France, c'est des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA, et qui montrent les effets extrêmement délétères à de très nombreux niveaux. Au niveau digestif, au niveau cérébral, au niveau du métabolisme pur. Donc tout ça est tout à fait préoccupant. On incrimine quand même l'explosion du nombre de diabètes, par exemple en France, pour grande partie à l'exposition à un certain nombre de substances de type perturbateur endocrinien qui expliquerait pourquoi ça augmente autant. Donc il faut bien entendu plus de science, il est impératif qu'il y ait une réglementation, et c'est là qu'on voit les limites actuelles de l'Europe par rapport à ça, où finalement est favorisé deux choses, d'une part l'aspect économique, et d'autre part se réfugier dans le doute est tout à fait négatif. C'est-à-dire qu'il faut au contraire avoir des crédits de recherche plus importants pour permettre de mieux définir les perturbateurs endocriniens, en tout cas les molécules, l'ensemble des molécules qui peuvent agir. Et vous savez, elles sont très nombreuses. Et là, on est freiné par des lobbies et par des pays, disons, qui ne vont pas toujours dans le sens que l'on souhaite. Je vous rappelle qu'en France, on est un petit peu en avance par rapport aux autres.
Oui, tout à fait. Oui.
Notamment par rapport au bisphénol A, dont on a souvent parlé sur votre antenne, et on a réussi en France à interdire, disons, le contact des aliments avec les contenants qui contiennent du bisphénol A. Alors l'emballage peut en contenir, mais celui qui est en contact avec les aliments, normalement, ne doit plus en contenir. Donc c'est un progrès que l'on a par rapport à ça.
Alors Stéphane Aurel, dans Le Monde du 29 novembre dernier, donc nous rappelait bien et posait bien cette question, pourquoi l'EFSA aurait donc écrit à l'avance une conclusion qui est en rupture avec le consensus scientifique quand même aujourd'hui?
Alors ça, c'est un vrai problème que l'on a. Après, il y a, je dirais, la force du citoyen qui est la force de limiter l'achat d'un certain nombre de substances suspectes.
Ouais, mais ça, c'est partout. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que autant il y a des fois on peut y arriver plus facilement, mais les perturbateurs endocriniens ils sont quand même partout. Hein, enfin.
Oui. Mais si vous voulez, le fait de consommer du bio, eh bien ça limite l'exposition à un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Oui. Le fait de mieux choisir ses produits cosmétiques, éviter certains au quotidien, on sait qu'il y a 71% des fonds de teint qui contiennent des perturbateurs endocriniens, qu'on a 74% des vernis à ongles qui en contiennent aussi, mais il faut hiérarchiser le problème. C'est-à-dire que si vous mettez du vernis à ongles de temps en temps pour les femmes, c'est pas du tout gênant. Par contre, si vous mettez tous les jours du fond de teint qui contient des perturbateurs endocriniens, ça pose des problèmes. Ouais. Donc il y a des attitudes à avoir, identifier ceux qui sont les plus suspects et ensuite arriver à limiter ça.
Mais écoutez, un grand merci Charles-Laurent Chevalier. Je pense que nous allons avoir besoin de prendre maintenant de l'air et dans quelques instants, vous allez aussi écouter donc ce reportage sur les vautours et on va partir dans les Hautes-Alpes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de perturbateurs endocriniens du côté des vautours, mais on ne sait jamais parce que le vautour, eh bien, il mange aussi des cadavres et là, il peut en trouver à ce moment-là, Laurent.
Absolument, il peut y avoir aussi des phénomènes dits de bioaccumulation,
et voilà.
C'est-à-dire consommer des produits ou des animaux qui ont des perturbateurs endocriniens, ça va se retrouver dans l'organisme. Vous savez que malheureusement, eh bien, au niveau des îles Féroé, pourtant qui sont très loin, qui sont sauvages, eh bien, les enfants sont très largement contaminés à cause de l'alimentation marine qu'ils ont et des mammifères marins qui ont bioaccumulé un certain nombre de substances comme les dioxines et les PCB.
Merci beaucoup. À bientôt, Laurent Chevalier. À très vite.
À bientôt, Denis.
Premier jour de printemps, alignons les déserts, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, dans le départ est proche, autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface, voyage au bout d'un monde, le moindre bruit s'efface, dans l'étendue est vaste, et n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige, autour de toi s'écroule, ce que tu croyais là. Solarium, et là tu sens, c'est là, chaleur qui te prend, et là tu sens, c'est là, hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier.
le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui le vide? Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Ces rires vont trop longtemps, été soumises à nos absences. Ces rires vont trop longtemps, été soumises à nos absences. Ces rires vont trop longtemps, été soumises à nos absences. À la lumière, en ordre après la fuite, ces rives vont révéler le sens qui se cachait là, là. Quelque chose existe, 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 quelque chose existe, là. Quelque chose existe, quelque chose existe, quelque chose existe, là. Quelque chose existe, quelque chose existe, quelque chose existe. Solarium, premier jour de printemps, alignons les déserts, faisons le point sur nos révélations.
Solarium, c'était Radio Elvis, n'ont rien à voir avec les panneaux solaires, mais quand même, c'était Solarium, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Alors là, respirons, on y va, on va regarder les vautours.
La balade de Denis Chissou.
Du bleu 05, sud des Hautes-Alpes. Bonjour Christian Colomy.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes avec votre lunette, avec votre jumelle, et puis aussi avec un ami berger que l'on va présenter. Déjà le décor et le décor sonore du lieu.
Alors décor sonore, c'est le silence que seul le vent vient perturber de temps en temps. Et le lieu, bah, pour l'instant c'est du vert, hein, c'est beau, c'est la montagne, c'est un alpage d'altitude, on appelle ça les quartiers d'août. C'est l'endroit où les brebis viennent en fin de saison avant de redescendre pour les quartiers d'automne et de regagner leur bergerie, quoi.
Donc là, ce sont les 1600, on ne les a pas comptés nous-mêmes, mais on le sait parce que Pascal nous l'a dit, qui est berger donc ici, donc à l'Alpe, qui sont donc bah, sur cette crête.
Oui, on les voit grimper dans une pente assez raide d'ailleurs, et leur passage répété comme ça trace des espèces de sentes que l'on appelle dans le sud des drailles. Des drailles, et ça, au sens large, ça devient le chemin, la draille. Tu as pris la bonne draille ou tu as pris la mauvaise draille, ça veut dire on est dans le bon ou le mauvais chemin, quoi.
Et puis on a quand même quelques marmottes, hein. Bah ouais, on les entend là. Oui,
oui, oui, il y a des marmottes qui sont dérangées parfois par les vautours, dont bon, elles finissent par s'y habituer, mais tout ce qui vole pour les marmottes est quelque chose d'inquiétant.
Ouais.
Et elle siffle, alors elle siffle pour annoncer aux autres qu'il y a quelque chose en l'air. Au bout d'un moment, les vautours, elles s'y habituent et peut-être que l'aigle en profite, lui, pour faire semblant d'être un vautour et foncer dedans.
C'était fin août, c'était dans les Hautes-Alpes, dans le bureau de Pascal Labbé, alors qui est un berger, 5 mois de l'année dans son estive et qui travaille pour un éleveur. Donc Pascal Labbé, en fait, il a besoin, alors très frugal, hein, il a besoin de ciel, il a besoin d'oiseaux pour l'habiter, de la musique de ses bêtes, de sa cabane et d'un poste de radio. C'est bien parce qu'il écoute à la fois France Culture et France Inter, donc parfait, parfait. Le bureau, c'est donc son alpage au-dessus de Réautier. Alors vous avez la vallée de la Durance donc à vos pieds, vous avez le Kéra qui est face à vous, la vallée du Guil, le Mont Viseau, l'Isoard, l'Italie, et donc tout un monde de cimes, de crêtes, de vallées invisibles comme ça qui palpitent dans la main et qui nous relie entre ciel et terre. Alors le ciel au-dessus de nous, pour l'observer au bout de ses jumelles ou de sa longue vue, eh ben, il y a Christian Colomy tout au bout, ami de 20 ans, formidable raconteur du vivant, c'est un peu mon monsieur montagne, vous en avez l'habitude, hein, ancien chef de secteur et garde du parc national des Écrins, dans lequel d'ailleurs nous sommes, hein, on y était dans cette zone d'adhésion. Et aujourd'hui, Christian Colomy a créé son association Envergure Alpine, c'est un très joli nom, pour déployer ses ailes, pour regarder le ciel, pour comprendre les rapaces et aujourd'hui, plus particulièrement, les vautours. Indispensable en montagne. Alors, ce sont pas les mêmes hein, qui accompagnent le croque-mort dans Lucky Luke, pas du tout. Certes, ce sont des nettoyeurs, mais les nôtres sont à quelle distance, Christian Colomy?
On dirait 300-400 mètres. Ils sont regroupés maintenant sur un petit monticule et puis Pascal a une bête qui est morte il y a peu de temps.
Ouais. Alors c'est, il y a combien de temps Pascal donc?
Il y a 3 jours.
Il y a 3 jours.
Bon, elle a fait mauvais temps, c'était une vieille brebis. Et avec les intempéries, le froid, elle a fini par décéder.
Et donc très vite, les vautours sont arrivés.
Bon, ils sont arrivés, ça fait 3 jours. Ben, il suffit qu'il y ait un peu de mouvement, de corbeaux. Oui, ils volent très haut et ils ont une vue très perçante. Ils voient directement qu'il y a quelque chose qui se passe.
Alors c'est vous qui l'avez déplacé en fait cette
fois? Oui, je l'ai déplacé à un endroit où je suis sûr pouvoir voir les vautours. Un endroit où ils puissent, s'il y a un danger, décoller.
Parce que la bête est quand même très craintive.
Je ne peux pas les approcher comme ça.
Alors là, Christian, donc, on en a sur cette crête, combien?
Quand on est arrivé tout à l'heure, Denis, on en a vu 7 qui ont décollé à notre arrivée, puis sans doute intéressés vraiment par la brebis qui est là, qui est leur repas en fait. Aujourd'hui, il y en a 32. Ouais. Maintenant, là, tout de suite, il y en a 32 là. Il y a d'autres qui sont arrivés de je ne sais où. Ils sont sortis du bleu 05 là-bas. Ouais. Ils sont apparus comme comme le génie sort de son flacon. Et ils sont tous à quelques mètres de la carcasse et ils attendent leur heure, je pense. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y en a déjà qui ont commencé à manger un petit peu. Puis il y aura tout à l'heure une frénésie, ce qu'on appelle une curée.
Alors là, c'est pas forcément une curée de campagne.
C'est plutôt une curée de montagne.
C'est
ici.
Ça.
Regarde Pascal, tu regardes dans ta longue vue, tu vas voir, on n'arrive pas à voir le numéro pour le moment, mais voilà, en fait, certains vautours sont bagués,
oui,
sur leur région soit de naissance, soit qu'ils aient été capturés quelque part. Et les bagues en France sont généralement blanches, en Espagne elles sont jaunes, et puis au Portugal elles sont vertes. Donc on a vu un peu de tout le monde, c'est la tour de Babel des vautours. On a fait un comptage l'an dernier, on avait 1700 vautours pour l'ensemble des Alpes, entre le Rhône, l'Italie, le Léman et la Méditerranée, en gros. C'est un comptage concerté avec la LPO, avec des associations, Vautours en Baronnie, Aster.
Envergure Alpine.
Envergure Alpine.
Dont vous êtes le président, cher Christian Coloumi.
Voilà. C'est gentil de le rappeler.
Bah oui.
Et tous ensemble, on se met chacun dans notre coin, on coordonne ce qu'on fait, même heure, même jour, et puis on rassemble ces informations-là pour avoir une idée des vautours. Alors comme ils se déplacent beaucoup, les comtés ici où on est sur l'alpage de Pascal, c'est toujours intéressant, mais c'est tellement opportuniste un vautour que s'il y a une curée quelque part, ils vont tous être là-bas. L'an dernier, il y a 100 de brebis qui ont déroché sur le nord du massif, là, sur la commune de Clavant. Dans les 2 jours, il y avait 400 vautours qui sont venus là. Alors ceux qui étaient là, c'était d'ailleurs le jour du comptage, eh ben, ils n'étaient pas ailleurs. C'est pour ça qu'il faut regarder très très large.
Alors ces oiseaux, parce qu'on les voit quand même arriver comme des petits points, comme des planeurs, ils volent très haut en fait dans le ciel.
Ils se laissent emporter par les courants ascendants,
bien sûr, oui.
Et puis de là-haut ils voient très bien, ils voient leurs copains qui tournent, peut-être que un peu comme la danse des abeilles attire les autres, il y a peut-être un message là-dedans. Oui. En tout cas ils voient ce qui se passe et puis...
Mais c'est quand même 4000, 5000 mètres ils peuvent faire.
Ah oui, bah, ici on est déjà à 2005, 1,5 km au-dessus.
Ouais,
vous voyez ces petits points qu'on vous voyait tout à l'heure, ils sont à plus de 1000 mètres de nous, quoi. Donc ils sont facilement 4, 5000, peut-être plus.
Alors, ils logent où, cela? Parce que autant on sait que les aigles que vous affectionnez ont des aires, comme on dit, ils ont effectivement des nids qui sont bien construits. Où est-ce qu'ils vont dormir, cela?
Contrairement à l'aigle qui est très territorial, ils vont entendre parler de personnes sur son grand territoire.
C'est ça.
Les vautours sont ensemble. C'est une stratégie qui leur réussit assez bien, d'ailleurs, pour trouver les carcasses, ça marche assez bien. Et le soir, ils se rassemblent sur ce qu'on appelle des dortoirs, en fait. Ce sont des falaises généralement en altitude, et c'est là qu'on va les compter. Et le matin, quand le soleil a réchauffé l'air et que le vent se lève, un vautour se lance dans le vide, un peu plus hardi que les autres. Et puis peut-être ça va pas marcher, donc il va se poser un peu plus bas. Puis les autres qui l'ont vu faire, le siffle, le hu. Et plus tard, tiens, vous voyez, il va siffler.
Oui, c'est marmotte, ça,
oui. Il a peut-être vu quelque chose. Et une demi-heure plus tard, il y a un autre vautour qui se lance dans le vide. Et puis on voit son aile qui se lève, une des ailes qui se lève. Il se met à tourner dans ce vent qui l'a un peu déséquilibré. Bah, c'est le vent qui signale le départ et les autres, peu à peu, vont partir, assez vite d'ailleurs. Et de là, ils vont les prospecter partout, à 10, 20, 30 kilomètres.
Ouais.
Et le soir, ils vont revenir dans leur dortoir.
Et le but, c'est de faire tout cela avec le minimum d'énergie.
Aile tendue, le vent fait le reste.
Donc les thermiques, les vents chauds.
Les vents chauds et les vents, ce qu'on appelle plutôt les vents dynamiques, c'est-à-dire que le vent qui vient taper contre un relief à l'horizontale, ben, d'un seul coup, se relève.
Ouais.
Et puis, ben, ils utilisent ce vent pour monter. Ce sont des vents ascendants, qu'ils soient provoqués par le réchauffement ou qu'ils soient consécutifs au Mistral, par exemple, qui vient se heurter une montagne et qui s'élève tout à coup. Ils utilisent ça. Ils le voient, ils sont très forts, ils savent le faire.
Pascal, en fait, il n'y a pas que les vautours qui repèrent d'abord une proie.
Non, en premier, ce sont les grands corbeaux. Eux, ils vont manger sur la peau qui est fraîche. En premier, ils vont attaquer, ils vont manger les yeux de la brebis.
Oui, c'est leur apéro, quoi. Ils commencent par les yeux, je comprends bien. Oui.
Et après, ils vont commencer à attaquer par le derrière.
Ouais.
Donc, ça fait un petit remue-ménage. Et si les vautours passent aux alentours, ils vont voir ce remue-ménage.
Ah.
Et ça va attirer leur intention, ils vont descendre pour voir ce qui se passe.
Oui, parce que quand je parle de proie, je ne devrais pas dire proie, hein. Ça, on devrait dire une peau, on devrait dire un cadavre.
Un cadavre.
Vous n'avez jamais vu, en fait, de vautours attaquer des bêtes vivantes ?
Bêtes vivantes, non. Ben, ils attaquent les avortons, les avortés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas finis, c'est une matière molle. Et les vautours, ils mangent la matière molle, comme une brebis en décomposition. Ils ne mangeront pas du frais.
Pascal m'a fait un très joli cadeau. C'est une plume de vautour, bon, qu'il a ramassée parce qu'il y a quand même de la castagne entre eux. Donc, il y a quoi ? Il y a des dominants ? Comment ça fonctionne, ça, chez les vautours ?
J'ai l'impression que vous êtes un dominant parce que la plume, vous l'avez mise sur votre tête.
C'est ça.
Plantée dans vos cheveux, on dirait un sioux. Donc, on sent bien le dominant.
Un chez-sioux.
Oui, un chez-sioux. Et donc, on voit surtout dans les curés.
Ah oui, c'est
les curés de montagne.
Là, les curés de montagne, oui.
Oui, qu'il y a des chefs et des pas-chefs, quoi. Il y en a qui sont un peu plus loin, qui regardent ce qui se passe.
Ouais.
Il y en a qui sont plus audacieux, plus courageux peut-être, ou plus insouciants, qui se jettent sur la nourriture, et puis les autres prennent ce qui reste, quoi.
Alors, c'est une véritable découpe, mais c'est incroyable, hein, parce que vous me disiez qu'à la fin, il restait les os. Et puis, rien sur la peau.
Rien sur la peau. La moindre parcelle de viande qu'il y a sur la peau est mangée.
Ouais.
Ils ont un bec tranchant comme un scalpel. À la fin, il ne reste que les os.
Ouais.
Et quand on a la chance d'avoir le gypaète passe derrière et vient manger les ligaments et les os.
Ils font un boulot formidable.
Bah, ce sont des équarisseurs.
Ce sont des équarisseurs naturels qui vont trouver des brebis mortes là où le berger ne sait pas qu'il a perdu une brebis.
Ouais.
Donc le nettoyage se fait souvent à notre insu. Chacun a son rôle dans la nature, et le rôle pour nous, humains, en dehors de... Oui, tiens, ils ont trouvé la carcasse. En dehors du rôle qu'ils jouent pour l'écarissage, pour assainir les montagnes, bah, c'est beau, quoi.
Ouais.
Il y a des vautours qui volent, le gypaète derrière. Le vautour moine, dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais qui vient de temps en temps, c'est des oiseaux magnifiques, quoi. Ça ajoute à la montagne, et puis la montagne se retrouve comme elle doit être. C'est la vraie montagne avec ses habitants qui sont là depuis toujours.
Là, vous vous régalez, on se régale avec la longue vue et la jumelle parce qu'ils font leur tournoiement.
Oui, ils tournent. En fait, ils descendent dans l'air et comme l'air monte plus vite que ce qu'ils descendent, eh ben, ils finissent par monter, doucement.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte d'un milieu, ça ? Parce qu'en fait, il n'y en avait pas en 2005, ils arrivent donc à cette période-là. Et maintenant, donc, on en a quand même pas mal, quoi.
Ça raconte simplement une reconquête. On revient à ce qui était autrefois. C'est pas nouveau pour les Alpes à l'échelle des Alpes, mais c'est nouveau à notre échelle à nous. Et ils ont été absents pendant une centaine d'années des Alpes parce qu'ils ont été persécutés, empoisonnés, dénichés, tués. Et puis, il y a eu des réintroductions depuis le massif central, dans les Grands Causses, l'Auxerre,
ouais,
tout ça.
Les gorges de la Jonte.
Les gorges de la Jonte, oui. Et ensuite, les Baronnies, le Vercors, le Verdon. Et de ces bastions extérieurs aux Alpes, des Alpes un peu externes, eh ben, ils sont revenus conquérir les grandes Alpes, entre guillemets, l'été seulement, quand les troupeaux sont là. À la limite, ils économiseraient de l'énergie en venant percher sur le camion des transhumants, en fait. Hein. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils arrivent vraiment pratiquement en même temps que les grands troupeaux. Et quelques-uns viennent en pionnier, peut-être avant en éclaireur. Et c'est pareil, lorsque les troupeaux descendent à la mi-octobre à peu près, eh bien...
Ah, ils repartent ?
Ils repartent, oui, ils ne sont pas là l'hiver, non. Pas de vautours l'hiver, il y en a un qui s'est oublié, qui est en retard, qui n'a pas tout compris.
Ils repartent où, vers le sud aussi ?
Ils repartent d'où ils viennent, c'est-à-dire de très loin parfois, d'Espagne, du Portugal,
d'accord.
Vous l'avez signalé. Ils peuvent repartir donc surtout ici dans les Baronnies, dans le Verdon, okay. Dans le Vercors. Et puis dans le Massif central, on lit des bagues là. Actuellement, on avait un Espagnol et puis une bague française, une bague blanche. Et on essaie de faire le point, justement, du recrutement de ces vautours-là. Et pour les gens qui baguent les vautours, de savoir où ils vont, c'est également intéressant. Donc nous, à l'association Envergure Alpine, on essaie de rassembler ces informations-là et de connecter ceux qui envoient des vautours et ceux qui les reçoivent, de façon à ce qu'on comprenne et on partage ça avec, évidemment, tout le monde.
Et alors, les ennemis, on va dire, du vautour, lorsque l'on est, par exemple, un vautour africain ou un vautour indien, il y a quand même des saloperies chimiques qui ne vont pas les aider, là, Christian.
Ben comme ce sont des charognards, ils consomment ce qu'ils trouvent, et en Inde particulièrement, un médicament est utilisé, un anti-inflammatoire, le diclofénac, Voltaren, qui justement se retrouve chez les vautours et qui est mortel très rapidement. Donc la population de vautours d'Inde s'est effondrée, on parle de 90% de vautours en moins, ouais. C'est pathétique, c'est énorme. Et chez nous, il y a un petit risque aussi qui commence à poindre. Nos amis de Suisse et Italiens ont fait des études là-dessus. C'est le plomb. Le plomb de chasse. Pas le plomb tiré. Le plus grand monde tire les vautours, bien heureusement. Mais ils les ingèrent quand ils mangent du gibier.
Ah, d'accord.
Avec des plombs. Et le plomb...
Donc, le saturnisme, quoi.
Le saturnisme. Et ça, c'est aussi... comme ils ont des acides dans gastriques très puissants.
Ouais, mais le plomb, ils n'y arrivent pas, quand même.
Et non, mais il est recyclé dans le sang. Et ça leur fait très mal, quoi. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les chasseurs pour qu'ils utilisent à terme, le plus rapidement possible, d'ailleurs, des projectiles qui ne sont pas sans plomb. Voilà. Les auditeurs veulent reconnaître un vautour dans la nature, vautour fauve, c'est assez simple. C'est un oiseau qui a des grandes ailes, des ailes assez larges, une queue courte, et puis ce côté bicolore, le bord de fuite, c'est-à-dire ce qui est la partie arrière des ailes, est noir, presque noir, et puis la partie antérieure, le bord d'attaque, il est plutôt, il est fauve, il est couleur d'un lion.
Et on les laisse repartir. Ouais, c'était fin août, donc dans les Hautes-Alpes avec Christian Couloumi, à 2500 mètres pour nous, mais bien plus haut pour les vautours, ou alors pas tant que ça, puisque on les a vus pas très très loin. Vous verrez sur le site, il y a de très belles photos, je crois, de Christian, j'en suis même sûr, de Christian Couloumi, qui est un très très bon photographe. J'en profite aussi pour vous signaler chez Glénat un ouvrage qui vient de sortir, qui est signé Christelle Leca et qui s'appelle « Alpes sauvages ». On sait qu'aujourd'hui, donc, les Alpes, c'est 200 000 km², c'est 8 pays, mais un quart est constitué d'espaces protégés. Donc, il y a vraiment un accent qui est très bien mis, donc, avec cet ouvrage Alpes sauvages de Christelle Leca. Et puis, alors, cette fois-ci, sur un autre département, mais qui est voisin, donc, celui de la Haute-Savoie, vous avez le cœur de nature entre le Léman et le Mont Blanc. Et là, c'est un texte de Jean-Jacques Fresco. C'est édité par les conservatoires des espaces naturels et Aster. Et donc, vous avez des dessins surtout d'Éric Alibert qui sont étonnants. Donc, il a fait ça, il s'est posé sur plein de lieux. Et donc, vous avez ces très beaux dessins avec ce cœur de nature. Alors, en fait, on quitte les vautours et on va se retrouver un peu au sol. On va être dans le même département donc des Hautes-Alpes, parce que la Fée Électricité a besoin, pour arriver sur nos chargeurs de smartphones et du reste, de très jolis pylônes, très chics dans le paysage, voilà, qui frôlent le parc national des Écrins. Et perché sur une ligne à haute tension dans cette vallée de la Durance, dans le Briançonnais, on va rejoindre Lionel Daudet. Bonjour à vous Lionel, vous êtes alpiniste, vous nous avez régalé avec le Tour de France exactement, parce que dans votre folie, vous avez tutoyé toutes les cimes de France. Revenons sur ce sujet donc de haute tension. Pourquoi en fait une opposition locale assez forte à cette nouvelle ligne, Lionel Daudet?
Bonjour Denis. Dans les Hautes-Alpes, il y a un gros projet de soi-disant rénovation du réseau électrique. Et dans ce projet de rénovation, eh bien, il est prévu l'installation de deux lignes à très haute tension, donc deux pour le prix d'une, qui seront donc en aérien, juste à l'endroit où vous avez été avec Christian Couloumi pour les vautours, juste en dessous.
Donc ça part à la fois de Gap et ça part du barrage de Serre-Ponçon. Et puis donc ça remonte toute la vallée de la Durance. Ça serait quand même plus de 300 pylônes.
Hein. Oui, c'est pas du tout anodin. C'est un chantier qui est vraiment à la fois un désastre, puisque il faut rappeler que le capital des Hautes-Alpes, c'est évidemment
c'est le tourisme
merveilleux. Ouais. Que les gens vivent à 80% d'une économie liée au tourisme de montagne et au sport de pleine nature, et que ces deux lignes à très haute tension impactent d'une manière directe à la fois l'économie et à la fois les paysages du département.
Alors Lionel Daudet, pourquoi est-ce surdimensionné pour vous?
Alors c'est complètement surdimensionné parce que en fait le calcul qui a été fait pour amener toute cette très haute tension a été fait à partir d'un pic de consommation qui est complètement artificiel puisque en fait le pic de consommation dans les Hautes-Alpes part des heures creuses et les heures creuses sont à 4 heures du matin quand les dalles chauffantes tournent à plein régime, les canons à neige au mois de février.
Des chaudières, etc.
C'est-à-dire que tout fonctionne en même temps, c'est-à-dire que le garagiste trouve son garage, etc. Et qu'on oublie aussi trop vite que les Hautes-Alpes ont des territoires qui sont labellisés territoires à énergie positive et à croissance verte. Donc on est en fait aussi un des départements qui, dans les années futures, va devenir autonome en électricité, quoi. Donc quelque part, on est victime d'une vision extrêmement archaïque du schéma énergétique français où l'approvisionnement vient pour la majeure partie des centrales nucléaires, de centres de production qui sont très éloignés, alors que déjà on aurait de quoi produire énormément chez nous.
Lionel Daudet, aujourd'hui en fait le coup est parti, c'est-à-dire qu'il y a déjà donc des pylônes qui sont en train de grimper. Vous avez eu une action qui était assez jolie, donc c'était la semaine dernière, et là vous avez voulu faire, comme on dit, un geste esthétique.
Voilà, il y avait l'idée de faire à la fois un geste esthétique, poétique, décalé, parce qu'on se rend compte que toutes les modes de contestation qui ont déjà eu lieu, de blocage de chantier, de choses comme ça, ont vraiment été réprimées d'une manière extrêmement brutale par les forces de l'ordre. Et là, il y avait l'idée de passer au-delà de tout ça et d'amener un message très beau. Donc en fait, des slackliners, donc des gens qui marchent sur des sangles comme des funambules, ont tendu une slackline. Alors quand c'est en hauteur, on appelle ça une highline, entre deux pylônes extrêmement symboliques qui sont situés au-dessus du lac de Serre-Ponçon et qui appartiennent à ces deux lignes à très haute tension qui sont en parallèle sur une vingtaine de kilomètres, quoi. Donc ça a donné des photos assez sublimes et ça a été vraiment un très bel événement qui, à l'heure actuelle, est pas mal relayé sur les réseaux sociaux.
Alors, on parle aussi quand même de l'Italie qui n'est pas loin, hein. C'était une portée d'arbalète, c'est juste derrière. Donc si on veut vendre de l'électricité aux Italiens, on s'y prendrait pas mieux.
Tout à fait. Il faut savoir que donc il y a eu cette enquête publique où 98% de la population s'est avérée contre l'installation de ces lignes. Et en fait, on se rend compte que, bah, quelque part, la population se doute que c'est pas finalement pour le département, mais bien plus encore dans le futur transformer en autoroute énergétique la vallée de la Haute-Durance et effectivement aller vendre l'électricité à nos voisins transalpins.
Vous avez fait un calcul en trouvant que 2 × 90 000 volts, ce serait suffisant, ce qui permettrait d'enterrer, on sait que c'est un coût colossal hein, quand on enterre donc des lignes, il faut aussi un petit peu savoir ce que l'on veut, mais que ce serait suffisant.
Oui, alors il y a deux choses. Déjà, dans l'enfouissement, il faut savoir que le coût qui a été évalué par des ingénieurs électriciens indépendants, qui sont vraiment des experts, démontre d'une manière magistrale que ce serait absolument pas plus cher sur du long terme, parce que on n'a plus du tout d'entretien, etc., etc. Et du coup, il y a vraiment cette idée que 2 × 90 000 volts, ça a été montré et prouvé par des ingénieurs électriciens en enfoui, ça suffisait largement à assouvir tous les besoins du département, qui plus est, sont amenés à décroître dans le futur, quoi. À défendre d'urgence.
Les tours sont en train de se monter. Merci à vous, Lionel Daudet. Et puis, notre quatrième sujet dans quelques instants, ça va être Parole de jeune, une jeune de 27 ans, Fanny, qui va nous raconter ce qu'elle fait dans le Tarn, dans la Scopsagne.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas.
Eh ben c'est toujours agréable, ça. C'était Il y a sur France Inter dans CO2 Mon Amour. C'était Vanessa Paradis et nous allons passer donc à notre quatrième sujet.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
Parole de jeune.
Ah ben oui, eh ben oui, de temps en temps et de plus en plus. Alors c'est-à-dire, je tiens à vous le signaler, je vous le rappelle, vous pouvez nous contacter si vous êtes, si tu es jeune et que tu écoutes cette émission, eh bien, possibilité donc bien sûr de dire, bah voilà ce que l'on fait. Alors il y a le répondeur, hein, 01 56 40 40 35, et puis bah après, après le répondeur ou bien après le mail, je me déplace, ça peut arriver, eh oui, absolument. Et là, on va partir dans un beau département qui est celui du Tarn, on est donc loin hein, des Hautes-Alpes, on aime bien voyager dans cette émission. On est dans la partie sud du Tarn, hein. On n'est pas du côté d'Albi, on n'est pas du côté de Sivens. Maintenant, tout le monde connaît Sivens. Ouais, non, non, pas du tout. Là, on est dans le sud, on n'est pas loin du Lauragais, on est dans le pays de Cocagne. Et on va rencontrer Fanny Galindo, qui a 27 ans, et qui est donc, qui va nous raconter son métier, parce qu'elle a une vraie passion. Elle travaille dans une SCOP qui s'appelle la SCOP Sagne. Les Sagnes, je vous le disais, bah, c'est le nom, on va dire, occitan pour parler donc des tourbières, des zones humides. Et donc, bah, cette SCOP, en fait, les remet en mouvement. Hein, elles ont été assez maltraitées. Et alors donc, elle va nous raconter, Fanny, donc ce qu'elle fait. Et elle va nous présenter son très joli bureau, qui n'est pas un bureau en altitude, mais c'est un très joli bureau quand même.
Mon bureau, c'est ici, c'est à Péchaudien, dans le Tarn, à côté de Pilorand. Donc voilà, depuis le bureau, j'ai vu sur les champs les quelques arbres qui nous entourent.
Et alors, vous êtes une fille du sol maintenant, c'est ça ?
C'est ça. Je travaille pour un observatoire qui a été créé il y a un peu plus de 8 mois. Et c'est un observatoire, donc c'est le réseau sol qui aide les agriculteurs à mieux comprendre leur sol.
C'est-à-dire que vous étudiez la structure d'un sol et après vous donnez des indications ?
Alors c'est entre autres la texture, mais aussi l'activité biologique, des suivis d'humidité. Ouais. C'est vraiment selon les questions de l'agriculteur et qu'est-ce qu'il aimerait comprendre. On a essayé d'adapter différents dispositifs de suivi.
Alors, Fanny, racontez-nous votre histoire, parce que donc, parole de jeune, vous avez 27 ans. Quel était votre parcours ?
Alors, j'ai fait une licence en géologie sur Toulouse, à Paul Sabatier. Suite à ça, j'avais le choix soit de partir en recherche pétrolière, soit de m'orienter en environnement.
Et vous n'avez pas eu envie d'éventrer le poitrail de la Terre, vous ?
Non, pas vraiment. Je préférais plutôt le côté écologique de la licence. Donc, je suis partie sur un master au sein de l'environnement. Et j'ai eu la chance de le réaliser en République tchèque la première année, en Erasmus. Ensuite, quand je suis rentrée, donc, j'ai fini sur Toulouse. Et pour finir le master, il fallait faire un stage de 6 mois. Ouais. Et j'ai eu la chance de le réaliser à nouveau à l'étranger, en République tchèque.
Alors ça, vous n'étiez pas à Prague, après que c'était Erasmus. Et puis après, vous êtes allée dans la Bohème du Sud, c'est-à-dire pas très loin de l'Autriche, de l'Allemagne.
C'est ça, c'est à Český Budějovice, où il y a un institut qui est assez reconnu dans le pays. Et là-bas, je travaillais, donc c'était un institut d'hydrologie. Et on essayait de comprendre les phénomènes d'eutrophisation qu'il y avait dans le grand réservoir donc de la République tchèque, qui est le réservoir Lipno. Et on essayait de voir les phénomènes, les polluants entrant et sortant, voir l'équilibre qui se créait dans le lac.
Alors là, on est devant l'établi. Qu'est-ce que l'on a ? C'est presque des outils de cuisine. On voit des mixeurs, on voit des tamis, hein, des planchettes pour découper.
Un incubateur, une étuve.
Ouais.
Une centrifugeuse, des petits outils.
Alors vous récupérez donc un bout de terre, en gros, et puis vous analysez.
Alors selon la méthode, soit on peut définir la classe texturale par les tamis.
Ouais. Ah, je vois même une cocotte minute là.
Ça c'est pour une méthode que je vais bientôt réaliser. C'est pour définir la glomaline. La glomaline qui est une protéine sécrétée par les champignons mycorhiziens. Et les champignons de mycorhiza sont très importants. Et du coup, essayer de quantifier leur présence permettra de savoir si le sol est riche en mycorhiza ou pas.
Bah, la clé de voûte du sol, on a coutume de dire que c'est le champignon, quoi. C'est ça.
Oui, c'est ça. Il a une capacité pour se répandre beaucoup plus facilement que les racines.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous, Fanny, un peu à la césure d'une histoire. C'est-à-dire qu'on a eu le tout productivisme, il fallait nourrir la France, etc. On connaît l'histoire par cœur. Donc, comme on dit, conventionnel. Et puis, on commence à se poser des questions. Maintenant, les agriculteurs, qui ne sont pas forcément des écolos, loin de là, mais commencent à se poser vraiment des questions sur leur sol.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils commencent à réaliser l'importance de leur sol, qui est quand même leur
patrimoine,
leur patrimoine. Et une gestion réfléchie est la bienvenue. Et je pense qu'ils sont de plus en plus sensibilisés sur la question. Et là, on le voit grâce au groupe qui s'est créé. Et on voit que ça commence à se répandre.
Donc le réseau sol, c'est ça.
Le réseau sol, oui. Tout à fait. Là, ils sont 12 personnes intéressées et passionnées pour certains, voire tous. Mmh. Et l'objectif, c'est vraiment de répandre ça au plus grand nombre.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le sol? Aussi bien de la symbolique, aussi bien de la texture, je ne sais pas.
C'est une question vaste. Oui. le sol, on y marche tous les jours dessus. Là, depuis que je travaille en réalisant des profils pédologiques, donc on extrait la terre du sol, je réalise qu'il y a plein de sols différents, il y a des textures différentes, il y a des couleurs différentes. C'est vraiment un outil varié et présent partout.
Vous voyez comment votre avenir, vous, sur cette planète?
Mais j'espère pouvoir continuer à donner des conseils et à apporter une petite touche auprès des agriculteurs ou de gestionnaires d'espaces naturels.
Fanny Galindo, donc parole de jeune dans cette émission, donc dans le Tarn, dans cette COP Sagne, et qui appartient aussi au réseau sol et à Rhizobiome. Il faut un boulot, mais vraiment formidable, à Pécholier, donc dans le Tarn, et ça nous fait du bien. Je vous ai parlé du répondeur, 01 56 40 40 35. Là, on va aller du côté de Saint-Germain-en-Laye, où ça chauffe un petit peu.
Bonjour. L'association Sites et Monuments a déposé ce 1er décembre un recours gracieux contre le défrichement de la forêt de Saint-Germain-en-Laye pour y établir un tramway. Tramway qui doit relier le RERA à la tangentielle ouest et qui peut pourtant parfaitement passer par la ville de Saint-Germain, ce qui aurait aussi évidemment l'avantage de desservir les habitants et pas seulement les sangliers. Plus largement, Sites et Monuments milite pour que la forêt de Saint-Germain bénéficie enfin du statut de forêt de protection et ne soit plus la variable d'ajustement de projets urbains. Seulement, les arbres ne disent rien, alors faisons-les parler ensemble. Plus d'informations sur le site sppef.org. Merci.
01 56 40 40 35, vous avez aussi le lien sur le site de CO2 Mon Amour. Ben non, les arbres parlent pas, en tout cas pas encore, mais en tout cas ils nous parlent, c'est sûr. Je me souviens de Jean-Louis Etienne, que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'émission du 31 décembre, et qui enserrait donc ces arbres pour capter donc cette merveilleuse énergie. Alors des arbres, vous allez en retrouver dans ce numéro de décembre de Terre Sauvage, avec les 100 plus belles photos pour comprendre la nature. Donc là, vous avez des arbres absolument en tout genre, j'allais presque dire dans des tas de positions. Il y a certains qui prennent la pause. Non, mais c'est une merveille. Et puis, vous avez aussi un très bel article sur les grizzlies pêcheurs. Je vous parlais en introduction donc des ours blancs. Ben là, c'est les grizzlies pêcheurs qui apprennent à leurs petits donc à attraper du saumon. Vous avez aussi en Russie, Sa Majesté, le tigre qui est en danger. Une fois de plus, parce que son habitat est donc menacé. Donc vous avez beaucoup de choses. C'est un numéro. Les grèbes. Ah bah les grèbes. On est sur l'étang de la Dombe. Les grèbes qui s'envoient en l'air. Il n'y a pas de raison. Donc les grèbes qui font l'amour. Donc les danses, les parades, les combats, les accouplements aussi. Vous les avez dans ce numéro donc de Terre Sauvage du numéro de décembre. Ah alors notre dernière séquence. Ça nous fait bien plaisir aussi. Quand la nature inspire les écrivains. Tenez, on écoute d'abord ce son.
It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God!
Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais vous avez compris que ça chauffait, on est dans les années 30, c'est Frankenstein. Ah, alors Frankenstein, ça va nous renvoyer à Mary Shelley, en plein 19e siècle, romantique, en Angleterre, donc c'est l'auteur de Frankenstein, et c'était une femme donc qui était pétrie de nature, c'est ce que vous nous racontez, donc Elisabeth Combe, dans les éditions Plume de Carotte.
Bonjour Denis. Alors Mary Shelley, elle avait 19 ans hein, quand elle écrit Frankenstein.
Ouais.
Elle sait pas encore le succès que ça va être, elle sait pas et elle saura jamais toute la vie qu'aura ce roman jusqu'à aujourd'hui. Elle écrit dans un contexte particulier. Elle va mettre des tas de choses de ce contexte dans Frankenstein. C'est pour ça que j'ai envie de le raconter un petit peu. On est au début du 19e siècle. L'influence de Rousseau est forte, même jusqu'en Angleterre. Les romantiques anglais ont précédé les romantiques français. Elle va tomber amoureuse de Percy Shelley, d'où son nom, hein, parce qu'au départ, Marie, elle s'appelle Wollstonecraft et non pas Shelley. Mmh. Et elle va prendre le nom de Percy Shelley. Pour continuer sur l'époque, on est à une époque aussi où les voyages se développent, des scientifiques partent, des poètes, des écrivains. En Angleterre, c'est la grande vogue du gothique. Et c'est l'époque des expériences sur l'électricité. Hein. Galvani, quelques dizaines d'années plus tôt, a fait des expériences sur la grenouille. Il a fait contracter la cuisse d'une grenouille morte. Et on croit à une électricité animale qui pourrait permettre, pourquoi pas, de ranimer des cadavres. Donc, tout ça faisant, Marie tombe amoureuse de Percy Shelley, elle s'échappe de chez elle, elle fuit, elle a 17 ans, et elle part rejoindre Lord Byron, le sulfureux. Il se retrouve au bord du lac de Genève, après plusieurs péripéties, après plusieurs voyages. Et là, ils ont envie de visiter les Alpes. Et
seulement, il fait un temps absolument épouvantable. Et 1816 est une année, en fait, sans été. Alors, vous avez aussi des couchers de soleil qui sont magnifiques, parce que c'est aussi l'année, si vous voulez, où William Turner nous offre des tableaux avec des rougeoiements assez exceptionnels. Mais c'est lié, donc, effectivement, à ce climat qui est changeant. Et ils sont merveilleusement déprimés, quand même, un petit peu, enfin, les uns les autres, par ce temps. On est en plein romantisme, vous l'avez donc rappelé. Et alors là, y a ce jeu qui se rajoute là-dessus.
Ils se font peur sous l'orage à l'intérieur. Ils sont protégés à l'intérieur, mais ils se font peur. Ils lisent des romans gothiques. Et voilà. Lord Byron lance un défi. On va tous écrire une histoire de revenants, de monstres, de fantômes. Et ils vont tous écrire, mais ils vont pas vraiment tous aboutir. Et surtout, le roman qui va sortir du lot, c'est Frankenstein.
Et alors, cette jeune femme aussi a découvert, on va dire, la nature avec l'Écosse. Bon, elle a beaucoup vécu d'abord dans une bourgeoisie, on va dire, anglaise et urbaine, mais quand même, elle est partie aussi en Écosse.
Elle est très attachée à l'Écosse, mais elle n'y a passé que 2 ans. 2 ans à 14 ans, quand elle vit chez des amis de son père, et là, elle a de grandes révélations face à la nature. Elle a déjà son imagination qui travaille, parce qu'elle a aussi assisté aux discussions entre les amis de son père. Hein. Coleridge fait partie des hommes qui viennent discuter, qui passent à la maison, voilà. Donc, entre la nature écossaise et tout cet imaginaire qu'elle se construit, elle commence à écrire à ce moment-là.
Alors vous avez donc sous-titré ce chapitre, Mary Shelley, « La nature contre les tourments de l'existence ». C'est-à-dire que c'était un espèce de médicament pour elle ?
Elle a été beaucoup marquée par les difficultés. En tout premier, 10 jours après sa naissance, sa mère meurt des conséquences de cet accouchement. Elle perdra 3 enfants. Percy Shelley se noie en 1822. Sa vie est marquée par les deuils. Et c'est vrai que on est au moment du romantisme. Ça compte, cette idée que on se reflète dans la nature et elle soigne, elle guérit, elle permet de s'apaiser. Elle fera vivre cette expérience-là d'apaisement à travers la nature à ses personnages, au docteur Frankenstein, hein, puisque c'est le nom du savant. Et puis à sa créature, qui n'a pas demandé de vivre, mais qui aimerait bien profiter du bonheur. Il entend les oiseaux, il aimerait bien imiter les oiseaux, sauf que quand lui il ouvre la bouche, il sort une espèce de croassement qui ne ressemble à rien.
Écoutez, merci d'avoir fait revivre cette Mary Shelley. Et puis donc moi je vous renvoie à cet ouvrage aux éditions Plume de Carotte, l'a bien nommé, Quand la nature inspire les écrivains. Merci Elisabeth Combre.
Merci à vous Denis.
Et merci à Julien Michel, à Vincent Godard à la technique aujourd'hui, à Jean-François Souvilly, à Albert Houck, à Camille Blanès, notre collaboratrice, et Lise Combe qui réalisait l'émission, Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Vous pouvez réécouter cette émission, si vous avez une petite insomnie, c'est entre 5h et 6h du matin, ce sera cette nuit. Ben oui, voilà. Le podcast, vous en avez l'habitude. Chez Sous, c'est le tweet. Et puis la semaine prochaine, alors entre autres choses, hein, l'émission se construit au fur et à mesure, on va changer de climat. Je vous emmènerai dans les Landes. Voilà, on va parler du gémage, on va parler des pins dans les Landes. Je vous souhaite un très très bon week-end.